Je m'appelle Jacques Hubinet, j'ai la chance de faire un métier qui me plaît, donc j'ai commencé comme caméraman d'actualité, c'était en 52. Donc effectivement, j'ai 73 ans aujourd'hui. Donc évidemment, en ma qualité de caméraman d'actualité, j'ai été amené à faire des reportages de rallye, notamment le rallye de Monte-Carlo, l'East African Safari. Et un de mes amis m'a dit un jour, quelqu'un donc à Abidjan organise un rallye qui s'appelle le Bandama. Et donc il organise ce rallye qui est inscrit au championnat du monde. On aimerait faire un reportage. Comment peut-on faire? Ça, c'était en 72, je pense. L'organisateur, donc Jean-Claude Bertrand, m'a dit, mais nous allons créer une traversée entre Abidjan et Nice, et je voudrais que tu nous assures le reportage de cette reconnaissance. Passer par la Libye, ça voulait dire faire une grande horizontale entre Agadez et Madama, donc aux confins du Tchad, pour remonter vers Séba et traverser la Libye. On commence à avancer et là, on pensait que le réservoir principal de la voiture était vide et donc on passait sur la réserve. Et évidemment, c'est toujours pareil dans cette partie du désert où vous avez du fêche-fêche. Hein. Le fêche-fêche, c'est un sable qui est très fin, qui ressemble à de l'eau quand vous êtes dessus. S'il y a une voiture qui n'est pas en état normal de motricité, elle passe pas. Donc on s'est retrouvé dans ces zones de fêche-fêche et évidemment comme la voiture s'étouffait, on s'est retrouvé planté. Donc ça a duré, on a sorti la voiture, on a avancé, etc., etc. Donc là, bon ben on a avancé tant qu'on a pu. On s'est retrouvé dans un endroit typique qui est connu des gens qui traversent ce désert, qui s'appelle l'Indochine. L'Indochine parce que le terrain est tellement mauvais que, en principe, les voitures s'y plantent systématiquement. Donc on a commencé à voir ça, et puis là on a commencé quand même à s'inquiéter très sérieusement. On est passé sous la voiture, on s'est rendu compte que sous la voiture, le réservoir principal perdait. Donc on se posait vraiment la question de savoir comment on allait pouvoir continuer. Donc là, la situation devenait quand même un peu tendue. Et surtout, ben, on était en plein milieu du Ténéré au mois d'août, donc la température à l'ombre était de 55 degrés. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a tiré des toiles autour de la voiture pour qu'elle soit effectivement non affectée par le soleil. Et on s'est rendu compte au bout de la première journée qu'on allait crever tout de suite. Donc on a dit qu'il faut trouver autre chose. Et là, on a aligné toutes les cantines qu'on avait dans le véhicule autour de la voiture et on passait la journée sous la voiture, tous allongés les uns à côté des autres. Et ce coin-là, donc protégé par la voiture, protégé par ce qu'on avait mis autour, ne se réchauffait pas dans la journée. Donc c'était un endroit qui était vivable, disons. C'est très curieux parce que quand vous êtes dans ces situations-là, il faut passer le temps. Donc à la limite, moi j'avais un roman policier, j'ai pris mon roman policier, j'ai commencé à le lire. Et je peux vous dire que j'ai dû lire la même page 40 fois. Sans savoir à la fin de la page ce qu'il y avait d'écrit dessus. Comme on avait sur cette voiture deux batteries, on en a consacré une à éventuellement pouvoir redémarrer, et sur l'autre, on a essayé de faire passer des messages. On n'avait qu'une CB, on n'avait pas grand-chose. Et à un moment, j'ai entendu parfaitement clairement les taxis italiens de Bologne qui disaient « Je vais de tel endroit, de la station à quelque chose d'autre. » Et malheureusement, eux ne m'entendaient pas du tout. Au moment où le soleil se couche, vous cherchez d'abord un endroit pour vous refroidir. Donc la partie qui était au nord, c'était l'avant de la voiture. Je m'allongeais sur le capot de la voiture qui était plus froid. Et j'attendais, ça durait une heure et demie. Par contre, au bout d'une heure et demie, je retrouvais toutes mes forces, tout allait bien, hein, il n'y avait pas de problème. On a estimé que les gens nous attendaient à la frontière libyenne et donc que les secours ne seraient pas lancés avant 12 jours. Et 12 jours, on n'avait vraiment pas du tout de réserve d'eau, pas suffisamment. Et donc pendant toute cette période, la seule chose qu'on avait, c'était une bouteille d'eau le matin avec laquelle on faisait un café au lait, un genre comme ça. Et puis une bouteille d'eau d'un litre et demi pour toute la journée pour nous quatre. Alors que c'est un endroit où on boit 12 litres d'eau par jour, quoi, grosso modo, hein, par personne. On est quand même très très atteint, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à parler. Donc effectivement, ce qu'on met en commun à ce moment-là, c'est comment s'en sortir. Déjà, ce qu'on a fait, c'est que le deuxième jour, on est parti en reconnaissance à 90 degrés de la piste, parce qu'on avait entendu des camions, on savait qu'il y avait des camions libyens équipés avec des pneus d'avion qui passaient donc au nord. Et on a fait une marche, donc on a dû faire 4-5 kilomètres en pensant pouvoir les retrouver. Et justement, moi, quand je suis arrivé à la voiture du retour de cette exploration, disons, je me suis écroulé. Et on n'avait strictement rien trouvé. On s'est rendu compte après, quand on a discuté avec les autochtones, que la piste des camions libyens était à 25 kilomètres. Mais on entendait les gens comme si c'était à côté de nous. Évidemment, avec un peu d'inquiétude supplémentaire chaque fois que ce qu'on lançait ne marchait pas. Quoi. C'était ça le problème, c'était qu'a priori, on se rendait compte que le cercle se refermait autour de nous régulièrement et qu'on n'arriverait pas au bout. Quoi. C'était vraiment le problème. Et donc, je me suis dit, bon, comme j'avais rencontré mon épouse avant, que j'avais envie de faire des choses et tout, j'ai dit, bon, au moins, je vais leur laisser quelques mots pour leur dire comment ça s'est passé, témoigner de pas mal de choses. Et chacun est parti un peu plus loin dans le désert, derrière la dune, pour dicter ses dernières volontés, enfin dicter, faire part à nos parents et à nos amis de ce qui s'était véritablement passé. Et le troisième jour, je crois, ou le deuxième jour, j'ai mis la main sur le réservoir et je me suis rendu compte qu'il était plus frais que le reste du châssis. On a donc démonté le réservoir, on l'a posé, on s'est rendu compte qu'il y avait à peu près 60 litres d'essence dedans et on s'est dit, bon ben là on peut s'en sortir. Donc à partir de là, on a dit, il faut tirer la voiture, il faut la sortir de l'endroit où elle se trouve. On a vidé la voiture de tout ce qu'elle avait, on a démonté les sièges, on n'a gardé que le siège du conducteur. On a enlevé toutes les cantines, on a tout laissé au milieu du désert, le matériel cinéma, sauf ma caméra que j'ai quand même pris avec moi. En 35 mm. Et on a commencé à découper au marteau et au burin les cantines que nous avions pour en faire des plaques de désensablage. Donc une nuit est arrivée, la septième. Et là, on était tous extrêmement fébriles. Vous imaginez qu'on s'est dit, bon, peut-être qu'on va arriver à sortir la voiture. Il était convenu avec Jean-Claude, qui allait piloter la voiture si elle arrivait à tenir sur le sable, qu'il allait se poser sur une partie dure et qu'il nous enverrait des signaux avec sa lampe de poche. Donc on a commencé à tirer doucement, doucement, et puis on s'est rendu compte à un certain moment que la voiture allait plus ou moins tenir. Et donc on a donné le top à Jean-Claude Bertrand de démarrer et de partir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc on était trois qui restions au milieu du désert. Et donc Jean-Claude part, on voit disparaître les feux rouges de la voiture à l'horizon. Et là, on se dit quand même, on n'est vraiment pas bien. On est au milieu du désert, de nuit. On a les étoiles pour nous guider, c'est pas évident, quoi. Je veux dire, là, on avait une chance sur deux de passer à côté, quoi. Donc on marche, et à un certain moment, donc Dan, qui avait été le plus solide d'entre nous, commence à hurler en disant « c'est pas possible, il nous a abandonnés, on le retrouvera jamais, on va crever ici ». Et on a continué à marcher, on a essayé de le raisonner, comme on était quand même un groupe solide, on a réussi à ce qu'il continue à avancer avec nous. Et à un certain moment, on a vu la lampe s'allumer. Donc là, on est arrivé à la voiture et on démarre et donc on retourne à l'Arbre du Ténèbre. Alors on était à la plage, hein, pratiquement, c'était fini pour nous. mis à part l'odeur désagréable de soufre, mais mis à part ça, on avait gardé une cantine vide sur le toit, on l'a posée à côté du puits, et puis on l'a remplie, on a pris un bain. Et donc là, on a attendu, et un soir, on a vu arriver des phares à l'horizon. Et donc, un véhicule de l'armée est venu vers nous, et on est rentré donc à Agadez de nuit avec eux.